Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Jean-Claude Manuguera, vous êtes virologiste, vous êtes responsable de la CIBU, la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Pouvez-vous nous dire ce qu'est Zika ?
Bonjour. Bien, Zika, c'est un virus qui appartient à la même famille que des virus qu'on connaît depuis longtemps, comme le virus de la fièvre jaune, ou alors des virus qui sont très répandus, comme le virus de la dengue dans les pays où il fait chaud, et qui est aussi un cousin du virus du Nil occidental ou du virus West Nile. Et donc, il appartient à une famille de virus qu'on connaît bien. Alors, c'est pas un virus totalement nouveau, puisqu'en fait, on le connaît depuis au moins 1947, où il a été isolé à partir d'un singe. Et ce virus a été extrêmement discret, puisque dans sa depuis son berceau, qui est la forêt Zika, d'où son nom, eh bien, ce virus a causé quelques cas d'infection humaine, mais de manière tout à fait anecdotique. Et on le recherchait, je dois dire, avec un intérêt purement académique, dans différentes espèces de moustiques du genre Aedes. On en parlera peut-être tout à l'heure de ces moustiques. Et puis il a commencé, je dirais, une carrière internationale en sortant de son berceau africain pour suivre un peu les pas du virus chikungunya. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que il partage certains des vecteurs, notamment le fameux moustique tigre, mais pas seulement. Et donc on l'a vu, la première épidémie a été à Yap en Micronésie. Pour vous donner une idée de l'échelle à l'époque, on parlait de la plus grosse épidémie avec 59 cas probables et 49 cas confirmés. Et puis ensuite, il a continué à s'étendre. Et puis là, il a causé une vraie épidémie, une plus grosse, on va dire, en Polynésie française, avec pratiquement 9000 cas, 400 confirmés, mais 9000 cas. Et c'est là où on a commencé à voir certaines caractéristiques qu'on n'avait pas vues avant, parce que les cas étaient très, très rares, de syndrome de Guillain-Barré, donc des complications.
Alors justement, lorsqu'un homme est infecté par le virus Zika, que se passe-t-il ? Quels sont les signes et quelles sont les conséquences possibles, Jean-Claude Manuguerin ?
Dans la majorité des cas, il ne se passe pas grand-chose. On parle beaucoup, on dit que pratiquement 8 sur 10 des infections sera asymptomatique. Donc on est infecté, mais on n'est pas malade. Ça arrive souvent avec, avec les virus. Dans une proportion donc plus faible, on a des symptômes qui sont des symptômes, je dirais, comme beaucoup d'infections virales. On commence à avoir de la fièvre, on a un syndrome pseudo-grippal, on a l'impression de donner une grippe, il n'y a pas de symptômes respiratoires. Alors, on a, dans le cas de Zika, des symptômes qui accompagnent cette fièvre, qui peuvent être des éruptions cutanées, qui démangent. Et puis, comme on l'a dans beaucoup de maladies causées par cette famille ou une famille proche, chikungunya, c'est pas la même famille, mais c'est pas très très loin, on peut avoir des douleurs articulaires et puis notamment des douleurs des maux de tête et des douleurs rétro-orbitaires, c'est-à-dire on a mal derrière les yeux. Donc assez classique pour une infection virale et très classique pour une infection arbovirale, on va dire. En général, voilà ce qui se passe. Et
C'est dans le cas où on est effectivement avec des symptômes bénins et il y a les cas où Zika peut causer des problèmes beaucoup plus importants, Jean-Claude Manuguerra.
Alors c'est une minorité des cas d'infection. Pour vous donner une idée, l'une des complications qui a été repérée le plus vite, ça a été le syndrome de Guillain-Barré, donc cette infection neurologique, en général, on pense d'origine auto-immune, qui correspond à qui peut provoquer des paralysies flasques. Pour vous donner une idée, sur les 9000 cas, il y a eu 42 cas en Polynésie française. Maintenant, on commence à constater cette complication qui n'est pas mortelle de manière très générale et qui, après un certain temps, se résout. On l'a constaté en Amérique du Sud et parallèlement à ça, on a constaté ce qu'on n'avait pas remarqué avant, c'est qu'effectivement, certaines femmes enceintes infectées peuvent donner naissance avec des enfants qui ont une plus petite tête qu'attendue.
Et ça, est-ce qu'on est capable de mesurer le risque de ce type de grossesse et de complications ?
C'est encore un peu tôt parce que, comme je vous l'ai dit, on apprend. Hein, c'est un virus qu'on connaît depuis longtemps, mais mal, parce qu'en fait, on avait d'autres virus. Il y avait d'autres virus dont il fallait qu'on s'occupe, et donc les études, notamment épidémiologiques, doivent être faites rapidement pour estimer ce risque que nous ne connaissons pas complètement encore.
Est-ce qu'on comprend pourquoi ?
Non, je crois que sur la physiopathologie de l'infection et de savoir pourquoi nous avons ces résultats sur ces symptômes sur les enfants. Ça, c'est l'objet de recherches qui commencent seulement maintenant. Donc la réponse ne va pas être pour tout de suite.
En réalité, on sait assez peu de choses sur Zika.
Oui, parce que ça fait partie de ces virus dont on fait un peu la collection comme des papillons ou des timbres. C'est-à-dire que il y a tellement de virus qui ont été identifiés, je ne parle pas de ceux qui ne le sont pas, qu'en fait, l'attention sur ces virus se porte d'une manière un peu académique. Et quand il n'y a pas de patients, on ne peut pas avoir effectivement les résultats de ces infections sur ces patients. Quant à mettre des études en route sur des phénomènes physiopathologiques liés à l'infection, par exemple chez l'animal, là, effectivement, ça dépend des ressources des laboratoires qui ne sont pas infinies. Et quand on regarde la liste de ces arbovirus, de cette famille, elle est longue et on ne peut pas travailler sur tous les virus de la même manière.
Caroline Eliachef.
Oui, est-ce que vous pourriez préciser, parce que je crois que tout le monde n'a pas forcément compris, comment se transmet Zika ? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que d'homme à homme, il y a une possibilité de transmission ou est-ce que vraiment il faut être piqué par le moustique ?
Alors, le Zika correspond à la définition archétypale, on va dire, d'un arbovirus, c'est-à-dire c'est un virus qui est transmis par des arthropodes. Ce virus est absorbé lors d'un repas sanguin par un moustique femelle.
Repas sanguin.
Oui, parce qu'effectivement, ces femelles moustiques ont besoin d'un repas sanguin pour la maturation de leurs œufs, donc c'est très important pour l'espèce. Et donc, en fait, c'est plusieurs espèces du genre Aedes qui peuvent être infectées par ce virus. Alors, il faut en plus que le moustique soit compétent. C'est quoi la compétence qu'on appelle compétence vectorielle ? C'est-à-dire qu'en fait, le moustique ne se contente pas simplement d'absorber le virus. En fait, il va le multiplier. Et en fait, le moustique ne va pas injecter du sang de la personne qui l'a piqué. Il va injecter sa salive. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le virus puisse infecter le moustique et aller de son tube digestif migrer jusqu'à ses glandes salivaires, c'est ça qu'on appelle la compétence vectorielle, à une concentration suffisante pour pouvoir transmettre le virus à une autre personne. Donc c'est un cycle qui implique au moins un humain et un moustique, et ensuite la transmission se fait en fonction de la densité des vecteurs. Il y a eu donc des cas de transmission sexuelle qui ont été décrits.
C'est ce que l'on a appris hier, notamment aux États-Unis.
À peu près trois. Alors il y avait déjà eu un cas qui nous avait intéressé de manière anecdotique en 2008. Effectivement, c'était la première démonstration d'une infection par voie sexuelle due à un arbovirus. Je dois dire que dans l'épidémiologie du virus et de cette maladie, probablement c'est un épiphénomène, c'est une anecdote.
Pourquoi a-t-on tant de difficultés avec les virus, à comprendre les virus ? Qu'est-ce qui pose problème du point de vue de la recherche, Jean-Claude Manuguera ?
Eh bien, en fait, parce que ces virus sont assez divers, et même quand ils appartiennent à la même famille, on peut avoir des expressions et des physiopathologies associées aux infections qui sont très très différentes. Par exemple, on va prendre le virus du Nil occidental, qui est un virus qui est très proche, qui est de la même famille, qui est du même genre que le virus Zika, qu'on peut d'ailleurs dans certains tests confondre avec ce virus-là. Eh bien, les symptômes qui vont être causés sont pas les mêmes. Alors bien sûr, il y a la fièvre, il y a tout ça, mais avec Westner, on a plutôt des encéphalites, ce qu'on n'a pas apparemment avec Zika. On a dans la grande famille des flaviviridés, aussi un genre qui est le genre qui contient le virus de l'hépatite C. Donc vous voyez qu'on est là vraiment dans des virus qui sont très très différents, même s'ils appartiennent en gros à une même famille. Et dans le même genre, on a des expressions très différentes. La dengue ne s'exprime pas du tout de la même manière que d'autres arbovirus. Donc on a des virus qui sont proches et en même temps qui ont des expressions très très différentes. Et tant qu'on les a pas vus à l'œuvre, on ne sait pas de quoi ils sont capables.
Alors le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui on va chercher donc une tentative de faire un vaccin contre ce virus. Pour la dengue, par exemple, ça a pris 20 ans, ce qui veut dire que pour Zika, ça peut prendre très longtemps.
Oui, alors on peut quand même espérer que ce ne sera pas aussi difficile que pour la dengue. Pour la dengue, on a une grosse difficulté, c'est qu'il y a 4 sérotypes et que probablement l'infection séquentielle par ces différents sérotypes ont une importance pour l'immunité, éventuellement un déroulé d'infection qui peut être plus ou moins sévère. Et donc dans le vaccin, il faut tenir compte du fait qu'il y ait 4 sérotypes. Pour Zika, c'est un virus pour lequel en fait on a deux lignages, enfin en gros on a deux groupes, le groupe africain et le groupe asiatique ou pacifique on va dire, mais ce sont des virus qui probablement varient peu et pour lequel en fait on n'a pas de différence sérotypique. Donc ça sera peut-être plus facile et peut-être qu'on pourra bénéficier de l'effort qui a été mis en route pour un virus cousin, qui n'est pas la même famille, mais cousin qui est le chikungunya. Donc peut-être qu'on pourra aller un peu plus vite pour le Zika.
Où en est-on sur le chikungunya ?
Alors, chikungunya, les recherches existent toujours sur le vaccin, mais à mon avis, à ma connaissance, il n'y a pas encore de vaccin sur le marché pendant encore assez longtemps.
En attendant d'avoir un vaccin, si on en trouve un contre Zika, que peut-on faire ?
Alors, malheureusement, pas grand-chose, sauf à se prémunir. Et donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est lutter contre le vecteur, puisque c'est la transmission se fait par la salive du moustique qui nous pique. Et donc, il faut lutter contre le vecteur. Alors, il y a plusieurs façons de lutter contre le vecteur. D'abord, d'une façon individuelle. Quand on va dans les zones infectées, on se met du répellent, on porte des vêtements, des manches longues, des pantalons. On essaie de se couvrir. Et puis, d'un point de vue plus altruiste, aussi pour soi, mais plus altruiste, on peut lutter chez soi contre les gîtes larvaires. Les gîtes larvaires, c'est là où les moustiques vont pondre leurs œufs, les larves se développer. Pour ça, il faut de l'eau stagnante. C'est les coupelles sous les pots de fleurs, c'est tout ce qui est eau stagnante. Et ça, il faut que dans chacune des maisons, eh bien, on fasse la chasse à l'eau stagnante.
On dit qu'il y a un lien entre la pauvreté et la diffusion de Zika. Pouvez-vous nous expliquer quel est ce lien, si vous considérez qu'il y en a un, Jean-Claude Manuguera ?
C'est compliqué à dire parce que, bon, encore une fois, c'est une maladie, une épidémie qui est tout à fait récente, donc il faudra analyser. Je pense pas qu'Yap soit particulièrement une île pauvre en Micronésie. Je pense pas non plus que la Polynésie française soit particulièrement une région pauvre. Alors, d'où peut venir cela ? Eh ben, en fait, effectivement, les zones tropicales comptent un certain nombre de pays à moyens économiques faibles, et leur berceau de ces virus, c'est effectivement l'Afrique, là où effectivement on va trouver des pays à faible revenu. Donc on l'a vu à la Réunion est un bout de France dans l'océan Indien. Eh bien, chikungunya a fait une très belle carrière à la Réunion, et alors que c'est pas un endroit pauvre. Donc je pense que c'est pas tout à fait il n'y a pas tout à fait de lien de cause à effet dans cette
situation. En tant que virologiste, est-ce que ça vous étonne de voir des virus réapparaître ainsi, ou bien est-ce tout simplement le fait que nos connaissances ont évolué et qu'hier, de tels phénomènes existaient sans que l'on s'en aperçoive parce que les connaissances scientifiques n'étaient pas équivalentes ?
Il y a un peu des deux. Ce qui est clair, c'est que ce virus-là qu'on a détecté en 1947, donc c'est quand même pas d'hier, on l'avait vu un peu dans différents pays d'Afrique. On le cherchait surtout chez le moustique et pas tellement chez l'homme. Alors pourquoi tout d'un coup il change de destin, on va dire ? Eh bien parce que il va suivre son vecteur, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, comme le chikungunya, il y a un parallèle entre les deux, ils suivent le même chemin, et donc là probablement que l'expansion de cette nouvelle émergence territoriale de ce virus, on pourrait dire, hein, parce que est liée au fait que ces vecteurs, hein, les moustiques du genre Aedes, en particulier l'Aedes albopictus, le fameux moustique tigre, étend son aire de répartition liée à la fois aux activités humaines, au transport. On voit très bien que certains moustiques, les entomologistes voient très bien ça, suivent les axes de communication humaine, conjugués probablement au réchauffement climatique qui fait que les moustiques vont coloniser territoires beaucoup plus larges et plus vers le nord.
Caroline Eliachet.
Oui, est-ce qu'on est immunisé quand on devient porteur de ce virus ? Est-ce qu'une immunité se développe ?
Alors, a priori, une fois qu'on s'est débarrassé du virus, on n'a plus de virus dans l'organisme, c'est pas une infection persistante, et il semblerait que l'immunité soit solide, et comme il y a peu de variations, on peut estimer qu'une fois qu'on a été infecté, on est immunisé pour la vie, en tous les cas pendant très longtemps, mais ce sera à confirmer avec les études qui vont pouvoir être faites grâce, entre guillemets, au nombre de personnes qui ont été infectées. Mais probablement qu'on est immunisé après.
Donc pas encore de certitude à cet égard. Merci Jean-Claude Manuguera de nous avoir éclairé sur Zika. On continue à évoquer les épidémies en général à 8h15. Nous serons également en compagnie de Patrick Zilberman, professeur titulaire de la chaire d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Bon repas sanguin si vous prenez votre petit déjeuner, puisqu'on a appris grâce à vous Jean-Claude Manuguera que les moustiques faisaient des repas sanguins. Peut-être que nos auditeurs font d'autres formes de repas. En attendant, il est 7h55 sur France Culture.